Nous prenons la parole dans Ésaïe 5. Ésaïe 5, à partir du verset 20. La Bible dit ceci. Ésaïe 5, à partir du verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font des ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres, qui font l'amer doux et le doux amer. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et intelligents à leur propre jugement. Malheur à ceux qui sont forts pour boire le vin et vaillants pour mêler la boisson forte, qui justifient le coupable pour un présent, un cadeau, et ravissent au juste leurs droits. Aussi, comme le feu dévore le chaume et comme la flamme consume l'herbe sèche, leur racine tombera en pourriture et leur fleur s'en ira en poussière, car ils ont rejeté la loi de l'Éternel des armées, ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Voilà, donc nous, le verset 24 finit par la chose la plus importante, car ils ont rejeté la loi de l'Éternel des armées, ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Malheur à ceux qui appellent le noir la lumière et la lumière le noir. Malheur à ceux qui appellent ce qui est doux, ils disent que c'est amer, et ce qui est amer, c'est ça qui a un bon goût. Malheur à ces gens-là qui veulent en quelque sorte inverser la réalité, changer la réalité, changer les règles. Et pourquoi ont-ils cette capacité-là de vouloir appeler le mal bien et le bien mal, le doux amer et l'amer doux? Parce que la Bible nous donne la raison par le verset qui suit, parce qu'ils sont sages à leurs propres yeux. Ils se croient intelligents. Donc le fait de se croire sage, de se croire intelligent, les pousse à s'autoriser à vouloir changer quoi? À vouloir changer ce qui est écrit à la fin, la parole de Dieu, la loi de Dieu. C'est ça le résumé de notre prédication. Donc il y a des gens, puisqu'ils se croient sages, parce qu'ils ont réfléchi, parce qu'ils se croient intelligents, ils ont disséqué la situation du monde, ils ont analysé les réalités de ce monde, et comme ils se croient sages et intelligents, ils ont décidé de changer les règles. Et ces gens-là, ces personnes-là, ça peut devenir toi ou moi aussi. Et ça peut être toi ou moi. Donc des gens qui veulent changer les règles. On ne peut pas changer les règles. Nous ne sommes pas devant la parole de Dieu, avec la parole de Dieu, en face des lois humaines. Les lois humaines, on les change dans l'institution qu'on appelle le Parlement. Donc les législateurs décident, lorsqu'ils voient qu'on n'arrive pas à appliquer vraiment une loi, ils cherchent à l'adapter ou à l'enlever. Lorsqu'ils voient qu'une loi ne marche plus, ils changent. Et on risquerait d'avoir les mêmes, comment dire, intentions en ce qui concerne la parole de Dieu. Or, la Bible dit que la parole de Dieu, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. On risque d'avoir inconsciemment l'idée de vouloir changer, d'adapter la parole à nous, à nos situations ou à nos projets ou à nos réalités. Mais la parole de Dieu est immuable, elle ne change pas. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais pas un seul i de la parole ne passera. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et Dieu, lui, ne change pas. Et la Bible dit que la parole de Dieu, c'est lui-même Dieu. Puisque Dieu ne change pas, donc sa parole non plus ne peut pas changer. La Bible dit dans Jacques 1, au chapitre 17, « En Dieu, il n'y a point de changement, ni d'ombre de variation, même pas l'ombre. » Vous savez, l'ombre, ce n'est pas le corps. On dit même pas son ombre peut changer. Donc, conséquence, sa parole aussi ne peut pas changer. Sa loi ne peut pas changer. Dieu reste le même et sa parole est la même. La situation du monde est difficile. C'est la vérité. Le mal sans cesse grandit. La souffrance sans cesse grandit. Même en apparence, si dans certaines sociétés qu'on appelle modernes, en majorité occidentale, il semble y avoir une sorte de confort technologique ou matériel. Mais en réalité, le nombre des hôpitaux psychiatriques ne fait que grandir et le nombre des scandales. Il n'y a qu'à suivre les infos pour se rendre compte de cette réalité-là. Les scandales ne font qu'augmenter. Le nombre de malheurs ne font qu'augmenter. Le nombre de suicides ne fait qu'augmenter. C'est la preuve que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile lorsqu'on voit tous ces gens qui sont noyés parce qu'ils veulent quitter les régions pauvres pour aller vers les régions riches sur des bateaux, dans des embarquements de fortune. Ils finissent noyés. Lorsqu'on voit ces réalités, on se rend compte que le monde est difficile. Lorsqu'on voit des gens dont on sait qu'ils ont tué quelqu'un, mais qui sont libres parce qu'ils ont beaucoup d'argent aux États-Unis, là, on croit qu'on est dans un pays de droit. Mais en réalité, c'est un pays de la loi du plus fort. Lorsqu'on voit des choses comme ça, comme on vient de lire, donc l'innocent est considéré comme coupable et c'est le coupable qui est libre, finalement. Donc on voit beaucoup de gens injustement condamnés à mort, alors que ceux dont on sait, preuve à l'appui, qui c'est eux qui ont tué, mais parce qu'ils sont des acteurs de cinéma ou bien des grands sportifs, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils sont libres. Et Dieu dit, tout cela, un jour ou l'autre, va finir, mais en pourriture, et ça sera très très grave. Et Dieu dit, malheur à tous ceux qui veulent faire ces changements-là. Sous prétexte que le monde est corrompu, alors moi aussi je vais me corrompre. Sous prétexte que je n'ai pas le choix. Non, bien-aimé, on n'est pas obligé de faire comme les autres. La Bible nous montre Daniel, qui était dans un pays qu'on appelle Babylone. Il a dit, je suis dans un pays étranger, je suis employé par le roi, mais je vais appliquer la loi de mon Dieu. Il était très beau physiquement et il était jeune en âge. Mais il n'a pas cédé à son âge, ni à sa beauté physique. On a lu l'histoire de Joseph, qui était très beau physiquement, courtisé par la femme de son patron. Il a dit, je ne peux pas. Certains se seraient imaginés dire, mais non, si le patron m'a laissé seul avec elle, ben sûrement le patron est d'accord sans le dire. Donc, créer une nouvelle loi. Dieu dit, malheur à ceux qui veulent créer des lois alors que les lois sont déjà là. Malheur à ceux qui veulent changer cela. Malheur. Vous savez, bien aimé, le plus grand danger, ce ne sont pas les actes, c'est la parole. Ce ne sont pas les actes. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un est habillé d'une manière bizarre avec des plumes d'oiseaux, avec un manteau de peau d'animal, avec des coquillages qui sont soutenus par une corde autour des jambes, et que cette personne-là, même si elle guérit un poulet mort, nous demander de la suivre, on dirait non. Donc même si tu fais des miracles, on voit bien que tu es magique. Tes actes ne vont pas nous pousser à te suivre. Mais quelqu'un qui vient insidieusement, avec une fausse parole, Mais maquillée en paroles de vérité, cette personne-là peut réussir à dévier le plus fervent des chrétiens. La parole est dangereuse. Et c'est pourquoi Dieu dit « Malheur à ceux qui veulent changer la parole, les règles ». Il dit que c'est eux qui sont les plus dangereux. Ceux qui veulent changer les règles, ceux qui veulent changer la parole, ceux qui veulent adapter la parole à la jeunesse. Celui qui commet les actes mauvais, Dieu veut le pardonner. Et Dieu veut qu'il connaisse la vérité pour être sauvé. Mais Dieu est en colère contre ceux qui changent la parole. Ça annule finalement le pardon pour ceux qui doivent être pardonnés. Puisqu'ils sont dans le mal, ils se croient être dans le bien. Finalement, comment ils seront pardonnés? Puisqu'ils ne se repentiront jamais parce qu'ils se croient être dans le bien. C'est pourquoi Dieu est en colère davantage envers ceux-là. Et l'apôtre Paul parle dans Romains, chapitre 1 et 2, des gens qui se comportent mal en faisant, en étant dans l'homosexualité, en étant dans la débauche. L'apôtre Paul en parle, mais il insiste sur un autre élément. Il dit, non seulement, non content de faire ce qu'ils font de mal, ils encouragent d'autres. C'est cette partie-là qui énervait beaucoup plus l'apôtre Paul. Le fait d'encourager les autres à faire le même. Mais comment on peut encourager les autres? En leur disant que ce qu'ils font, c'est bien. Donc, en changeant la parole, on peut soi-même faire le mal, mais quand l'autre veut le faire, on lui dit non, c'est pas bien. Mais soi-même on le fait, on sait que c'est pas bien. Et donc on a toujours la possibilité de revenir. On a toujours la possibilité de demander pardon, puisqu'on sait qu'on fait le mal. Et on dit à l'autre que ce qu'il fait c'est le mal. Mais lorsqu'on commence à encourager l'autre à faire le mal, à s'encourager soi-même, parce qu'on sait créer ses propres règles, sous prétexte qu'on est jeune, sous prétexte qu'on est en Europe, sous prétexte qu'on n'est pas... certains croient que les lois de la Bible sont culturelles, sous prétexte qu'on n'est pas de cette culture-là. Bien-aimés, on est en train d'entrer dans le malheur. Malheur à ceux qui appellent le mal bien, le bien mal. Malheur à ces gens-là, parce que ces gens-là veulent changer les règles, et en changeant les règles, ils vont faire tout tomber. Ils vont faire tout tomber. Bien-aimé, vous vous imaginez que si on changeait les règles de construction, alors que ces règles ont été vérifiées pendant 50 ans, 100 ans, on les change, mais beaucoup d'édifices vont tomber. Admettons que Dieu change les règles et ils disent que finalement, les corps solides, je décide qu'ils deviennent liquides. Et les corps liquides, je décide qu'ils deviennent solides. Alors, vous vous imaginez la conséquence. Donc là, tout ce que nous avons là va s'écrouler parce que ça va devenir liquide. Et si ensuite il décide que ça devienne un liquide brûlant, alors là, on va aller où? Donc si Dieu changeait sa parole, la Bible dit que tout ce que nous voyons est soutenu par la parole de Dieu. C'est des règles que Dieu a établies dès le départ. Ce sont ces règles-là qui permettent au solide de tomber. Ce sont ces règles-là qui permettent au liquide de couler. Ce sont ces règles-là qui permettent à la chaleur de monter et de s'arrêter à un niveau de température. Ce sont ces règles-là qui font fonctionner le monde. Imaginez que Dieu, lui, change sa parole. Donc, toutes ces règles-là de construction vont changer. Et donc, vous imaginez la catastrophe que ça va être notre humanité, notre univers. Donc, on ne peut pas changer la parole. Changer la parole, c'est changer la structure de l'univers, parce que l'univers a été construit par la parole. Et Hébreux 1:3 dit que l'univers est soutenu par cette parole encore. Non seulement construit par cette parole, mais soutenu par cette parole. Ça veut dire que si on sort la parole, si on change les règles, tout l'univers tombe. Tout tombe, bien-aimé. Et c'est pourquoi Dieu est beaucoup plus en colère contre ces gens-là qui veulent changer sa parole. Adapter sa parole à des régions, adapter sa parole à des individus, changer sa parole. On ne peut pas, nous ne sommes pas dans un parlement, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui l'a donnée. Et Dieu nous a déclaré dans cette parole qu'il ne la changera point, parce que sa parole c'est lui-même. Sa parole soutient l'univers. Changer sa parole c'est se renier lui-même. Et se renier lui-même c'est détruire tout ce qui existe. Et lui-même. Et or, ça ne peut pas être puisque Dieu est éternel. C'est ça la réalité, bien-aimés. Nous devons faire attention. Et je vais donner quelques exemples. Je ne serai pas long. Je vais donner quelques exemples aujourd'hui, comment à cause des difficultés, à cause de la souffrance, donc on veut s'adapter dans plus ou moins plusieurs endroits. On veut s'adapter et changer la vérité de la parole de Dieu. Je vais commencer par le problème d'homosexualité. Aujourd'hui, il y a des médecins qui osent dire que c'est génétique. Donc, on n'a pas le choix. Celui qui est né comme ça, il devient... Il ne peut pas échapper à cela, il finira homosexuel. Donc, c'est génétique. Alors, on le comprend. Nous, on a eu même affaire à un pasteur qui croyait comme cela. Et on lui a, heureusement, il y avait un frère qui avait le sondage venant d'un magazine du monde des païens qui montrait que 55% des Français ne croyaient pas en cette logique-là, n'étaient pas favorables à l'homosexualité. Et on a dit à ce pasteur, tu vois déjà 55%. Des gens du monde ne sont pas favorables. Toi, pasteur, tu commences à excuser cela, à cautionner cela. Bien aimé, on ne peut pas changer le mal en bien. Malheur à ces gens-là. La Bible dit clairement dans 1 Corinthiens 6, 9 que ceux qui sont dans l'homosexualité et qui ne veulent pas changer iront en enfer. C'est écrit dans 1 Corinthiens 6, 9 à 10. C'est écrit. Et que c'est un péché. C'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de contre nature. Le Seigneur en parle dans Romains aussi, chapitre 1 et 2, il dit que ces gens-là, ils font des choses contre nature. Contre nature, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Le Seigneur en parle aussi dans Lévitique. Donc un homme ne peut pas faire avec un autre homme ce qu'il doit faire avec une femme. C'est des choses qui sont contre la parole de Dieu. Aujourd'hui, on veut s'adapter parce qu'il y a des personnalités éminentes du monde qui sont dans cela, on veut commencer à trouver des théories, d'excuses, tout cela pour dire, mais non, mais comprenons, il y a des cas, non. C'est un péché comme tout autre péché. Vous vous imaginez un voleur qui va lire la Bible, il vient à l'église, il se sent mal. Et il entend à l'église le prédicateur dire, comprenons pour l'homosexualité, c'est génétique, bon, il y a des choses qui nous dépassent. Qu'est-ce que ce voleur va dire? Mais il y a de la discrimination dans cette église. Puisque la même Bible me condamne moi et condamne l'homosexualité. Mais comment dans cette église on légalise? Il va dire, il y a discrimination. Donc pour qu'il n'y ait pas de discrimination par rapport aux voleurs, par rapport aux menteurs, par rapport aux criminels, par rapport aux assassins, pour qu'on soit vraiment juste, équitable, il faut qu'on reconnaisse que l'homosexualité, c'est un péché. Sinon, alors il faut légaliser tout. Si on légalise l'homosexualité, légalisons le vol, légalisons le mensonge, légalisons la débauche sous toutes ses formes, puisque on légalise une partie, donc on légalise tout, bien aimé. C'est un péché, c'est un péché. Nous ne devons pas tomber dans cela. Nous ne devons pas tomber... non seulement dans l'homosexualité, mais aussi dans le fait de cautionner cela, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui sont dans ça. Non, ce n'est pas le nombre qui va changer les règles. La parole de Dieu est sortie, elle est telle qu'elle est. De toute façon, on va lire un passage qui le dit clairement, « Large est le chemin qui mène à la perdition ». Beaucoup de gens le trouvent. Donc ce n'est pas le nombre qui va changer la règle. La règle restera toujours la même parce que c'est Dieu qui l'a donnée. Amen. Il y a un autre point, bien-aimé, où on commence à vouloir, vouloir changer les règles. Et on a fait de ce point-là tout un séminaire, l'œcuménisme. Donc c'est le fait de réunir toutes les religions sous une même bannière. Donc le fait de considérer que tous ceux qui croient plus ou moins à Dieu, quelle que soit leur religion, et on dit ils sont dans la foi. Ils ont la foi. Et bien-aimés, nous ne connaissons qu'une seule vérité, c'est la Bible. Si quelque chose est contraire à la Bible, peu importe la majorité, même des pasteurs, même ceux qui tiennent la Bible, ils sont dans ça, nous on dit non. On suit la Bible, on ne suit pas un homme, On ne suit pas une organisation, on ne suit pas une institution, on suit la Bible. Maintenant, la Bible dit qu'il y a des bergers. Et donc, si ces bergers-là que nous devons suivre sont fidèles à la Bible, on les suit. S'ils ne sont plus fidèles à la Bible, on ne voit pas des raisons pour lesquelles on les suit. Sinon, autant suivre Aimé Jacquet, tous ces gens-là. Donc, si on doit suivre des bergers, il faut suivre les bergers qui sont fidèles à la Bible. Sinon, cherchons-nous des coachs, n'importe quel coach, et suivons. Donc, si on suit ces pasteurs-là, c'est par rapport à la Bible. C'est très important. Donc, la Bible est contre ce genre de mouvement-là, écuménisme, tout ça, où on considère que Dieu est partout. Non, Dieu n'est que dans Jésus-Christ. Et la Bible le dit dans 1 Jean 2, 23, « Celui qui a le Fils a le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. » Donc, il n'y a pas, celui qui n'a pas Jésus, celui qui n'obéit pas à la Bible, n'a pas non plus Dieu, parce que Dieu, c'est la Bible. Au commencement était la parole, Jean chapitre 1er, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu est la parole, donc on ne peut pas suivre la parole, suivre Dieu, sans suivre sa parole. On ne peut pas. Donc, et sa parole, c'est quoi? C'est la Bible. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous dise que c'est des histoires, c'est des légendes qui ont été. Mais dans ce cas, si la Bible c'est des histoires, c'est des légendes, alors qu'est-ce qu'on va faire? On n'a plus de fondement. On n'a plus de base. On n'a plus d'arbitre. Imaginez un match sans arbitre. Bon, les gens vont faire comment maintenant? Donc l'autre va prendre carrément, arriver près du but adverse, il voit que la situation est difficile, il prend le ballon dans ses mains, et il cache ça, il s'avance comme il est musclé, il passe en force, et donc but. Mais les gens vont dire, mais non, c'est pas un but. Mais il n'y a pas d'arbitre. Quand il n'y a pas d'arbitre, chacun fait, c'est la loi de la jungle. Donc si la Bible n'est pas vraie, alors il n'y a pas d'arbitre. Donc, et comme il n'y a pas d'arbitre, c'est la loi de la jungle. Qui aimerait vivre dans une société où il n'y a pas d'arbitre? Et c'est la loi de la jungle. Personne. La Bible, c'est l'arbitre fondamental. Mais un arbitre meilleur. Pourquoi? Vous savez, la Bible, ce n'est pas comme nos lois d'aujourd'hui. Qui te dit il ne faut pas voler? Il ne faut pas dépasser 50 km/h en agglomération. Il ne faut pas faire ceci. Il ne faut pas prendre la nourriture d'autrui. Mais qui ne te donne pas de nourriture? La Bible, quand elle te dit, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, de l'autre côté, elle te dit, voilà le chemin du bonheur. Voilà le chemin du succès. Voilà le chemin de la réussite. Donc, il ne se contente pas de te cadrer, mais il te donne la solution pour aller loin et être heureux. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la Bible. Ce n'est pas comme nos lois d'aujourd'hui qui se limitent à interdire. Mais la Bible, c'est la parole de Dieu. Il y a des côtés d'interdiction, non pas pour interdire par plaisir, mais pour nous protéger, pour nous éviter des problèmes. Mais il y a des côtés de propositions de vie, de propositions de bonheur, de puissance. C'est ça la vraie parole. Et donc si aujourd'hui on te dit que la Bible, finalement, attends, c'est des hommes qui ont écrit. Mais oui, c'est des hommes en qui Dieu a mis sa confiance. C'est des hommes que Dieu a inspirés. Voilà. Et Dieu a parlé à travers eux, il a prouvé que c'était sa parole. Donc malheur à ceux qui veulent changer les règles et dire que non, ce n'est pas vrai. Et la Bible dit dans Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? Donc s'il n'y a plus de fondation, s'il n'y a plus de fondement, donc même le plus beau toit du monde, s'il ne peut pas être soutenu par une belle fondation, une solide fondation, ça tombe. Les plus beaux murs du monde, les plus beaux papiers peints du monde, s'il n'y a pas une fondation qui soutient l'édifice, ça tombe. Il faut bien qu'il y ait une fondation. Et cette fondation, c'est la parole de Dieu. Donc, je revenais sur mes sujets, les points qui aujourd'hui font que, bon, on commence à vouloir changer les règles, l'œcuménisme. On veut pousser tout le monde à reconnaître que l'autre prie aussi, donc il est dans la bonne voie. Non, pour être dans la bonne voie, il faut être en Jésus-Christ. C'est lui le seul. Il a dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. » C'est logique. C'est logique. C'est comme la porte de l'avion. La porte de l'avion va dire au passager, je suis le chemin. Si tu n'entres pas par ici, tu vas entrer où? Donc même si on invente un avion en carton à côté, mais tu seras dans les cartons, tu ne voleras pas. Donc bien aimé, la seule porte, c'est Jésus. S'inventer autre chose, c'est s'égarer, c'est se perdre. Mais on ne va pas passer notre temps à prouver que les autres voies sont mauvaises. Ça, c'est, on l'a dit dans certaines autres prédications. Mais là, c'est un appel à insister, à demeurer dans la vérité. Et on va vous sortir Ingrid Betancourt de la captivité qui dit, ah, j'ai été soutenue par Marie. Il y a des chrétiens, mais évangéliques qui vont me dire, mais pasteur, bon, quand même. Elle prie quand même, non? Moi, j'ai dit, mais les magiciens aussi prient. Mais ils prient le diable. Moi, j'ai dit, je n'en disconviens pas. Elle a vécu une expérience, mais avec des démons. Ce n'est pas avec Jésus. Parce que si c'était avec Jésus, elle ne sortirait pas pour dire, allons à Lourdes. Allons voir Benoît XVI. Si c'est avec Jésus, elle sortirait pour dire, Jésus-Christ est ressuscité. Il est vraiment vivant. C'est ça la réalité. Je ne discute pas sur sa sincérité. Peut-être qu'elle est sincère, mais sincère dans l'erreur. Voilà. C'est ça. C'est comme tu vas acheter du coca, tu prends la bouteille, c'est écrit coca, mais c'était une erreur. On a mis, comment dire, de l'huile de frein dedans. Alors, tu bois l'huile de frein, mais sincèrement. Mais c'est quand même de l'huile de frein. Ce n'est pas ta sincérité qui va changer le contenu de la bouteille. Donc, elle est peut-être sincère, mais dans le mensonge. On ne peut pas nier ça. Même s'il y a le côté sentimental, le côté tralala, tout le monde pleure, tout le monde est dans la joie. Nous, on est toujours vigilants. Sentinelle vigilante. Avec la torche en train de voir. Bien-aimés, Jésus-Christ a souffert pour la vérité. Ce n'est pas pour qu'on fasse des compromis. Il est accroché à la croix. Vous savez ce que c'est que la croix? Des ossements qui se brisent, le poids qui t'amène par terre. Et puis pour que nous maintenant viennent comme des grands patrons dire oui, on peut concéder telle chose alors que le maître lui l'a souffert à la croix. Jamais, bien-aimé. Sentinelle vigilante. Il a dit veillez, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Veillez, ce n'est pas veiller de prière. C'est veiller de vigilance. Soyez vigilants et priez et vous ne tomberez pas dans la tentation. Donc même si on nous sort des gens comme ça, nous restons toujours la tête froide. On n'est pas impressionné. On est content qu'elle sorte, qu'elle s'en sorte, parce que c'est Dieu qui le maître des temps et des circonstances, c'est Dieu qui l'a permis, mais nous ne prenons pas les restes. Nous savons faire la part des choses. La vérité, c'est la Bible, c'est Jésus et seule la Bible, bien-aimé. Il y a d'autres points. Aujourd'hui, on veut faire montrer comme si l'enfer n'existait pas. C'est des histoires. Bien-aimés, l'enfer existe. Autrement dit, le feu éternel, le lieu de châtiment éternel existe. Un lieu où quand tu meurs sans être sauvé, tu vas brûler éternellement. Mais en attendant d'atteindre ce lieu-là, si tu meurs à notre époque, il y a un lieu qu'on appelle le séjour des morts, qu'on appelle l'enfer. Ce lieu-là, en attendant que ton jugement arrive, ben, c'est comme une prison où tu es maltraité jour et nuit par des démons, par des gouttes d'eau chaude, des grosses gouttes. Tu es tous les jours maltraité, mais tu ne peux pas mourir. Ce lieu-là existe. Il y a des gens qui ont vu ça en mourant. On a déjà vu le film de quelqu'un qui mourait. Et pendant qu'on raconte son histoire, pendant que cette femme-là mourait, elle voyait l'enfer. Mais elle ne savait pas comment, que faire pour éviter cela. Elle disait, mais je suis en train d'aller là-bas. Et son mari ne pouvait pas la sauver parce que son mari avait une Bible, sans doute, mais il n'avait jamais lu cette Bible. Il avait toujours considéré que c'était des histoires. Maintenant, quand sa femme criait, je vois l'enfer, sauve-moi! Son mari est parti chercher la Bible. Il a pris la Bible, mais il ne savait pas que faire avec la Bible. Il a toujours rejeté les invitations que lui faisait sa mère ou autre personne pour venir écouter la parole. Peut-être qu'un jour, il aurait dû entendre Jean 3,16, « Dieu a tant aimé les hommes, afin que quiconque croit en lui, qu'il a donné son fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il suffisait seulement de ces versets-là pour sauver cette femme-là. Dis Jésus, sauve-moi. Parce qu'il y a un autre verset qui dit dans Romains 10, 13, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. En ce moment-là, il suffisait que cette femme dise, Jésus, je me repens, sauve-moi. Le train changeait de couleur, de confort, le contrôleur changeait. Automatiquement, les mauvais contrôleurs allaient fuir. C'est le véritable qui allait venir. Les anges du Seigneur prennent la femme, dire, à cause de Jésus, tu vas au paradis. Jésus a dit au voleur qui est à côté de lui, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Je t'autorise. Parce que je meurs, je suis en train de mourir pour cela. Bien-aimé, l'enfer ça existe, le paradis existe. Et nous sommes sur la terre comme dans un moment d'investissement. Donc on doit savoir, on investit pour où? Nous sommes comme des enfants dans le ventre de leur mère. Les médecins, quand ils s'occupent des enfants qui sont dans le ventre de leur mère, ils s'occupent d'eux pour leur sortie, en vue de leur sortie à venir. Ils ne s'occupent pas d'eux pour rester dans le ventre. Ils s'occupent de tout ce qui serait bien pour leur sortie et pour leur avenir par la suite, bien-aimés. Tous les examens qui sont faits, c'est dans le but qu'en sortant, ils soient bien. Et donc, c'est pareil. Nous sommes dans le ventre. Nous sommes en train de nous préparer pour la sortie. Et la sortie, ça sera soit le paradis, soit l'enfer. Tout dépend de comment tu aurais géré ta vie. L'enfer, ça existe, bien-aimés. Évitons cela en venant à Jésus-Christ. Il y a un autre point, c'est que il y a des gens qui disent, mais comprenez la société dans laquelle nous sommes. Bon, même si on est des chrétiens, après tout, si on est fiancé, on peut faire toujours des bisous avant. Bien-aimé, ce n'est pas écrit dans la Bible. Du moment que les fiançailles, on peut les rompre. Qui sait ça? Nous tous, nous savons que quand on est fiancé, si ça... On discute, ça ne va pas, on fait quoi? On arrête. Est-ce qu'on tombe dans le péché? Non, on arrête les fiançailles. Alors, imaginez maintenant que les bisous soient autorisés. On sait bien que les gens qui vont faire ça vont aller toujours loin. Mais bref, admettons que ça soit autorisé. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont faire comme quand tu vas dans une boutique, les essayages. Tu viens, tu essayes, la robe, ça ne marche pas. Allez, amenez-moi une autre robe. Bien-aimé, les essais, je vois bien les aventuriers, pasteurs qui vont en profiter, les aventuriers, prédicateurs, chantres, sérieux d'apparence qui vont en profiter pour dire, oh, le Seigneur m'a dit que c'était toi, ma sœur. Mais, comme c'est autorisé certaines choses, essayons. Et après, non, je crois que je m'étais trompé, j'avais mal dormi ces jours-là. Et il prend encore quelqu'un d'autre. Bien-aimé, vous imaginez le désordre que ça va être. Vous imaginez le désordre. Mais là, les gens me disent, mais pasteur, montre-nous où c'est interdit dans la Bible. Moi, je dis, je ne sais pas. Je te montrer là où c'est clairement interdit. Mais l'esprit de la Bible refuse cela. Donc, quand on lit la Bible en général, dans sa totalité, l'esprit de la Bible refuse ça. Parce qu'il y a des conséquences difficile. Tout n'est pas écrit, mais Dieu nous a donné la sagesse à partir de ce qui est écrit de gérer ce qui n'est pas écrit, parce qu'il est Dieu. Et je crois que ça, ce n'est pas de Dieu. Même si je ne peux pas te montrer le verset, ce n'est pas de Dieu. Maintenant, tu peux toujours décider de changer les règles. Moi aussi, je demande, bon, toi aussi, montre-moi où c'est écrit, que tu peux le faire. On m'attaque seulement moi, bon, toi, montre-moi où c'est interdit. Moi aussi, je dis, toi aussi, montre-moi où c'est permis. Voilà. Bien-aimés. Donc, ne cherchons pas à créer des nouvelles Bibles, des nouvelles théories, parce qu'on est un peu tenté par la chair. Bien-aimés, tout le monde est tenté, mais parfois nous passons un mauvais quart d'heure sur la terre. Résistons, le mauvais quart d'heure passera. À la mort, ça sera fini, nous sommes au ciel. Résistons. Ça ne veut pas dire que, bien-aimés, si on fait le bilan dans ce monde, qui est-ce qui pêche le plus? C'est les adultes, hein? Ce n'est pas les jeunes. C'est les adultes. Qui est-ce qui font des problèmes par rapport aux problèmes sexuels qui ont le plus ça? C'est les gens mariés, hein? Ce n'est pas les célibataires. Cherchez. Moi, je suis pasteur, je vous l'ai dit. Donc, je reçois des gens, je connais la réalité de l'homme. quand on est à, dans le rôle que nous avons, nous connaissons ce que c'est que l'homme. Parce que les hommes se confient à nous et on peut faire des statistiques. Je peux vous dire que les gens qui ont le plus de problèmes, ce ne sont pas les célibataires, ce sont les gens mariés. Donc il ne faut pas que les célibataires se disent, mais oui, ils nous parlent comme ça parce qu'eux, ils sont mariés. Mais non, c'est faux. Donc la puissance est la même. C'est la puissance de Jésus. Si tu peux tenir célibataire, tu tiendras marié. Si célibataire, tu ne peux pas tenir, même marié, tu ne tiendras pas. Il y a des choses que je ne peux pas dire, mais je te donne des conseils. Si tu veux plus approfondir, tu viens, on va en parler à côté. Donc c'est pour en venir à quoi ? C'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut se dire, mais non, oui, mais il faut comprendre, c'est l'âge, c'est l'adolescence ou la préadolescence. C'est les hormones. Jésus-Christ a calmé les hormones à la croix. Il a calmé ça. Il a dit, tout est accompli. Il peut calmer ça. C'est la réalité. Bien-aimés, nous, quand on était païens, on voyait des frères chrétiens, oh bien-aimés, purs. On a beau les tenter, beau les provoquer, beau les critiquer, vous êtes des zéros, des innocents. Ils étaient toujours tranquilles. Mais aujourd'hui, dès que des chrétiens sont un peu menacés par les païens, toi, tu ne connais rien. Alors, ils vont tout faire. Bon, pasteur, est-ce qu'on ne peut pas nous permettre un peu aussi? Mais tu veux montrer quoi? Que tu connais. Si les païens connaissent, pourquoi ils divorcent tant? S'ils connaissent, s'ils sont forts, pourquoi sont-ils si malheureux? Non, ne cherchons pas à avoir gagner dans deux tableaux. Sur deux tableaux. Si tu veux gagner en Christ, tu dois forcément accepter de perdre sur l'autre tableau. Tu ne peux pas être Jimmy Swaggart en même temps Papa Wemba. Non. Donc il faut choisir. Tu ne peux pas être Michael Jackson en même temps un grand prédicateur. Non. Tu ne peux pas. Il faut choisir. Et aujourd'hui, on voit des chrétiens qui veulent à la fois bien prier, mais à la fois ressembler à Madonna. Mais non. Donc, il y a deux mondes, il faut bien choisir. C'est ça quoi. Donc, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de mélange. C'est cela, bien-aimé. Donc, restons dans la pureté. Les bisous avant le mariage, ce n'est pas autorisé. C'est biblique. Mais je n'ai pas de verset, je crois seulement. Ok. Nous continuons. Il y a un autre point, bien-aimé, qu'on retrouve que aujourd'hui, ben, on veut appeler le mal bien et le bien mal. C'est le problème du respect. Donc aujourd'hui, sous prétexte de la liberté, les gens s'autorisent à manquer de respect les uns aux autres. Sous prétexte, ou bien je suis majeur, on s'autorise. Et nous voyons beaucoup d'enfants aujourd'hui manquer de respect envers les aînés, envers les adultes, sous prétexte qu'ils sont devenus majeurs, sous prétexte qu'on est libre. Bien-aimé, attention, il y a des règles spirituelles. La Bible dit « Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps ». Ce sont des règles spirituelles, que personne ne vous trompe. Vous êtes assez âgé. Quelqu'un qui a 17 ans, 18 ans, 14 ans, 15 ans, comprend le français. Il comprend ce que je dis. Ce n'est pas parce que nous vivons dans une société où on peut appeler la police à tout moment pour accuser ses parents, on peut appeler la police à tout moment pour accuser ses oncles, que on peut se permettre de commencer à manquer de respect aux aînés, aux parents, ou en se disant, mais tu n'es pas ma mère, tu n'es pas mon père. Bien-aimé, attention, tout celui qui a l'âge de ton père et l'âge de ta mère mérite la même considération. C'est un aîné et si, bien-aimé, je le dis, moi je fais face à beaucoup de gens qui ont plus que mon âge. Mais aller discuter avec ces gens-là, vous ne les entendez jamais dire que moi je leur ai manqué de respect. Jamais. Ce n'est pas parce qu'on a un poste de direction qu'on doit s'autoriser à manquer de respect aux aînés. Et il y en a qui vont dire, c'est culturel, c'est faux, ce n'est pas culturel, c'est dans la Bible. La Bible, l'apôtre Paul conseille à Timothée, il dit, il faut traiter les gens qui ont l'âge de ton père comme des pères. Il faut traiter les gens qui ont l'âge de ta mère comme des mères. Il faut traiter les jeunes comme des jeunes. Les gens qui ont le même âge que toi comme des frères. Donc, ce n'est pas le même rapport. C'est dans la Bible. On s'autorise aujourd'hui parce qu'on se dit on est dans une société occidentale, européenne. Bien aimé, qui a écrit la Bible? Ce ne sont pas les imprimeries d'ici. Ce sont les imprimeries d'ici, bien aimé. Donc, il faut l'appliquer puisque c'est les imprimeries d'ici qui l'ont fait. Ce ne sont pas les imprimeries de l'Indonésie qui ont fait la Bible. Hein. Ce sont les imprimeries d'Europe. Alors, si c'est écrit en Europe, quand on veut l'appliquer en Europe, on ne veut pas, mais bien aimé. Donc, il ne fallait pas l'écrire en Europe. Hein. Il fallait l'écrire ailleurs. Donc, c'est les imprimeries d'ici qui sont en train de multiplier et de distribuer la Bible. Donc, bien aimé, il ne faut pas appeler le mal bien et le bien mal. Donc, la liberté comprise mal, on commence à l'appeler bien. C'est faux. La Bible insiste sur le respect des aînés. Il faut faire que les aînés qui sont autour de toi disent toujours « Oh, c'est un bon garçon. C'est une bonne fille. » Il y en a qui diront « Oui, mais nous sommes incompris. » Mais je vais te poser une question. Entre toi, qui a 18 ans, et quelqu'un qui a 50 ans, qui penses-tu que a beaucoup plus de connaissances, de sagesse, d'expérience? Quand tu dis « vous êtes incompris », c'est à toi de réfléchir. Qui est incompris? C'est toi qui comprends mal. Bien-aimé, je suis tout le temps avec les jeunes, je prends leur parti, mais je suis en train de vous donner un conseil gratuit. Fais en sorte que les adultes qui sont autour de toi parlent du bien de toi. Tu peux être bloqué dans ta vie. Le problème, c'est qu'on a oublié qu'il y a des lois spirituelles dans ce monde. Que ce que nous sèmons, c'est ce que nous récoltons. Maintenant, pendant que nous récoltons des mauvaises choses, on a oublié ce qu'on a sémé en mal. C'est pourquoi on croit que c'est les aléas de la vie, c'est le hasard de la vie qui fait qu'on récolte les mauvaises choses. Sûrement, c'est parce qu'on a sémé les mauvaises choses. Regarde dans ton enfance, peut-être tu as manqué de respect aux adultes. Tu as été rebelle. C'est pourquoi tu as 20, tu as 40 ans, 50 ans, tu commences à souffrir parce que tu as manqué de respect quand tu avais 17 ans, 14 ans. Souviens-toi, bien-aimé, réfléchis. Il y a des lois spirituelles. Ce qu'on sème, on va récolter. Nous, on a demandé. Moi, j'ai demandé pardon. Quand je suis parti dans mon pays d'origine, j'ai vu mes tantes. J'ai dit, j'ai été impoli. Quand j'avais 10 ans, 12 ans, 14 ans, c'est vous qui m'avez élevé. Mais je n'avais pas été à la hauteur. Mais pardonnez-moi. Voilà. Parce que maintenant, je connais les règles spirituelles. Les règles spirituelles, c'est que ce qu'on sème, on récolte. Et quand on manque de respect aux aînés, c'est comme si on manquait de respect à ses propres parents. Et la Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Et bien aimé, et partout où je passe, je fais en sorte que quand je sors de là, l'adulte, quelqu'un qui est plus âgé que moi, puisse me dire que Dieu te bénisse. Et si, bien aimé, je ne contente pas tout le monde. Il y a des gens pour qui je suis désagréable parce que la vérité ne va pas plaire à tout le monde. Mais devant toi, il sait que tu es honnête. Même si tu es désagréable parce que tu as dit la vérité, il sait que tu es honnête et il va te bénir, quoi. Mais si, alors que tu es en face d'un aîné, il ne te dit rien parce qu'il ne sait plus quoi te dire. Parce que tu as été trop impoli, tu as été trop dur, il ne sait plus quoi te dire, tu es maudit. Je te dis la vérité. Donc tu as touché l'ordre de Dieu, c'est l'ordre de Dieu. Bien-aimé, vous vous imaginez un enfant de 2 ans, il suffit que son père décide de le noyer, il le met dans la salle, dans la baignoire, il le noie. Donc il y a beaucoup de choses, il suffit que son père dise, je ne m'en occupe pas, 4 heures de temps, cet enfant meurt. Il peut aller ouvrir la fenêtre et sauter. Bien-aimé, vous n'imaginez pas les efforts que les mères endurent de s'occuper des enfants. C'est des efforts extraordinaires. Des efforts, pas seulement les mères, les parents. Il y a des parents qui ne peuvent même pas s'acheter un costume parce que ces enfants doivent d'abord s'habiller avant, bien-aimés. Il y a des parents qui sont là, qui ne peuvent, ils ne vivent plus leur vie parce qu'il a aussi sa femme, mais il ne vit plus sa vie avec la personne qu'il aime parce que leur vie est consacrée à tout faire pour mettre les enfants à l'aise, pour qu'ils aient des études et qu'ils fassent tout ça. Bien-aimé, tu as peut-être 10 ans, 12 ans, 14 ans, je te donne un conseil gratuit. C'est le moment de semer ton avenir en étant humble et obéissant aux adultes. Ça ne veut pas dire que tu vas tout faire ce qu'on va te dire. Mais même si ce qu'on te dit n'est pas correct, sois sage dans ta façon de répondre, dans ta façon de discuter. Sache que tu as en face de toi quelqu'un qui est un aîné. C'est très très important, bien-aimé. C'est un conseil que je vous donne en tant que... C'est comme si je m'identifiais à vous parce que dans ma façon de travailler, j'ai affaire en général à des gens qui sont plus âgés que moi. Et moi, c'est comme ça que je fais. Je fais en sorte que la personne qui est plus âgée que moi puisse me bénir. Comme ça, vous savez, je me sens en sécurité quand quelqu'un qui a l'âge de mon père dit, petit, que Dieu te garde. Tu vas avancer, continue comme ça. Je dis merci Seigneur. Donc à chaque fois qu'une bénédiction sort des gens qui sont plus âgés que moi, même qui pouvaient être mes oncles ou mes grands frères, j'ai dit merci Seigneur. Parce que, et j'aime entendre, vous savez, il y a des gens, quand on dit que Dieu vous bénisse, pour eux c'est la religion, c'est normal. Mais moi quand on me dit que Dieu vous bénisse par les adultes, j'ai dit un point de plus quoi, au marquoir, un point de plus. Chaque bénédiction de quelqu'un qui est plus âgé que moi, pour moi je ressors de ça, je me sépare, j'ai dit un point de plus, j'ai marqué encore. Et je sais que tout ce qu'ils me disent là, que Dieu vous bénisse, je sais que c'est ça qui va me soutenir jusqu'au bout. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il a fait en sorte que les aînés puissent bénir et soutenir les adultes. C'est un Dieu d'ordre. Il fait en sorte que la fondation puisse soutenir le mur, que le mur soutienne le toit. Voilà. Si le toit ne reconnaît plus la fondation, tout va s'écrouler. Ce toit-là va s'écrouler. C'est très important que personne ne te trompe. Et surtout que ces gens-là ont connu ton âge. Ils ont connu ça. Donc tu ne peux pas les prendre pour des gens qui ne comprennent rien. Attention. C'est toi qui ne comprends sûrement rien. Parce que lui, il est passé par ton âge. C'est clair, quoi. C'est comme si tu voulais expliquer, toi qui es touriste à Marseille, tu veux expliquer à un Marseillais la ville de Marseille. Donc il va te dire, mais attends, monsieur, moi je suis là depuis 25 ans. Toi, tu es là depuis un mois, tu viens de Chine, tu veux m'expliquer où se trouve le vieux port. Voilà. Donc, bien-aimé, c'est clair, les aînés sont passés par là. C'est un conseil gratuit. Et je ne veux pas que vous puissiez venir demander pardon comme moi je l'ai fait à 33 ans, 35 ans. Dès maintenant, construisez votre avenir sans problème avec les adultes. Je ne dis pas qu'il faut tout suivre quand on te dit des choses qui ne sont pas dans la parole. Je dis tout simplement qu'il faut faire en sorte que tu sois toi irréprochable vis-à-vis d'un adulte. C'est tout. En suivant la parole, mais avec respect, même si on dit, bon, papa, je ne peux pas suivre ça parce que ce n'est pas dans la Bible, je ne peux pas mentir, mais tu le dis avec respect. Et tu ne fais pas comme si tu avais, s'il y avait égalité. Il n'y a pas égalité. C'est très, très important, bien-aimé. Et les gens disent que c'est culturel. Ce n'est pas culturel, c'est biblique. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont maudits. À commencer par ici, en Europe, où on prend les aînés, on les met en isolement dans les maisons de retraite. On les met en isolement dans des lieux de soins. Pour, bien-aimé, non, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Un jour, on m'a raconté, puisque dans le sud, ce n'est pas comme dans le nord. Un jour, un frère aîné ici m'a raconté, quand il était petit, on les éduquait dans le sud à savoir s'occuper des aînés. Et quand il était jeune, on lui a raconté l'histoire suivante. Il y a un homme qui avait son père, qui était vieux, qui habitait encore avec eux. Et on lui avait donné à ce papa-là, qui était déjà vieux, on lui avait donné une chambre là où le chauffage n'arrivait pas. Et comme il faut, on lui avait donné une couverture, qui n'était pas bonne. Et puis, le fils de cet homme-là n'était pas bien. Et un jour, ce papa-là dit à son fils, et son fils vient dire au papa, « Mais Pépé, le papy, il a froid. » Et le papa lui donne une couverture vraiment qui n'était pas bonne, qui n'était pas consistante. Il lui va lui donner. Et son fils prend une paire de ciseaux. Il voulait commencer à couper la couverture. Et le papa lui dit, mais pourquoi tu veux couper la couverture? Le fils dit à son père, je veux garder une moitié. Quand toi tu seras vieux, je te donnerai aussi ça. Bien-aimé, on récolte ce qu'on sème. Ce que tu fais à ton père, sache-le, que toi aussi un jour tu seras un père. Tu seras une mère. Attention, bien-aimé. Ce monde appartient à quelqu'un d'autre. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Si des gens comme les Mitran sont morts de cancer, ce monde appartient à quelqu'un d'autre. Il y a des grands féticheurs qui ont reconnu que ce monde appartenait à quelqu'un d'autre. Ça ne leur appartenait pas. Il y a des grands hommes qui ont reconnu qu'ils étaient petits parce que finalement, devant la maladie, ils n'ont pas su se débrouiller. Mohamed Ali, où est-il aujourd'hui? Bien-aimé, il y a des lois dans ce monde. Ce n'est pas la force de ton âge qui va changer ces lois-là. Revenons à ces lois-là qui soutiennent la société, qui soutiennent l'humanité et qui nous assurent l'amour de Dieu. Bien-aimé, la liste est longue, mais ce que je voulais nous communiquer, c'est cette idée-là. Ne changeons pas les règles. La règle, c'est la parole de Dieu. Même si ça peut nous arriver, parce que la pression est forte, parfois de tomber dans le péché, il ne faut pas parce qu'on tombe dans le péché ou régulièrement dans un péché qu'on fasse de ce péché-là quelque chose de bon parce qu'on veut s'excuser. Non, ça reste mauvais. Cherchons la délivrance auprès du Seigneur. Il y a des gens qui vont aller vers le pasteur qui lui dira que se masturber, c'est bien. Ce n'est pas grave. Bon, il va se choisir des pasteurs. Moi, je t'ai dit que c'est un péché, c'est mauvais. C'est clair. Bien-aimé, revenons à la vérité. Vous vous imaginez, si tu roules, si pendant la nuit, pendant que nous dormons, il y a quelqu'un qui va changer le panneau, là où c'est 100, c'est interdit, il enlève. Là où c'est 50, il met 110, limitation. Vous imaginez le lendemain, les désordres qu'il y aura dans la ville. Toi, tu as l'habitude de passer sur cette rue-là de sens unique, mais l'étranger ne savait pas parce qu'on a enlevé le panneau. Vous imaginez quel désordre il y aura. Imagine qu'on te donne une carte où à la place de Marseille, on met Rouen. À la place de Paris, on met Strasbourg. Tu t'imagines comment ça sera compliqué. Même si peut-être tu ne sais pas très bien, toi-même, tu as l'intention d'aller vraiment à Paris. Tes bonnes intentions sont détruites. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 11:3, si les fondements sont ébranlés, si la vérité est inversée, même quand ton cœur est bon, comment peux-tu te débrouiller? Comment? Puisque les fondements ne sont plus là. Ton cœur est bon, mais tu es dans un endroit où les lois sont mauvaises. Il ne faut pas toucher aux lois. La loi, c'est elle qui garantit le retour à Dieu. La loi, c'est celle qui garantit le pardon. La loi, c'est celle qui garantit l'avenir. Même si nos cœurs ont du mal à s'en sortir avec la tentation, le péché, ne changeons pas la loi, parce que si on la change, on est perdu à jamais. On est perdu à jamais. Jésus a dit, en me rejetant, vous êtes perdu à jamais, parce que vous avez rejeté la lumière. Ne rejetons pas la lumière. Ne changeons pas les cartes, parce qu'en changeant les cartes, en changeant les villes, c'est fini. On ne va plus se retrouver. Tu ne sais plus où aller, parce que la carte est changée. Ne changeons pas les lois. Restons bien-aimés. C'est très très important de laisser la parole telle qu'elle est. Vous imaginez si on changeait les étiquettes des produits. En laissant les produits tels qu'ils sont, mais on change les étiquettes. Il y a des gens qui vont boire du poison. Il y a des gens qui vont manger du poison. Il faut laisser les choses telles qu'elles sont. Même si nous on a du mal. Même si, comment dire, on se sent étouffé. Ne changeons pas les choses. Ne changeons pas la parole. Ne changeons pas les règles. La règle reste la parole de Dieu. C'est elle qui sauve. Bien-aimés, il y a des gens qui ont besoin. Là, j'ai cité les gens qui ont un bon cœur. Mais il y a des gens qui sont aussi mauvais, mais qui sont fatigués d'être mauvais. Si on ne leur propose pas le chemin de la vérité, comment sortiront-ils? Si on ne leur dit pas qu'en étant mauvais, c'est mauvais vraiment. Se dire, oh mais je suis mauvais, je suis fatigué d'être mauvais, mais il paraît que mauvais, c'est être bon. Ah bon, donc, je reste, même si je suis fatigué. Il y a des gens qui sont mauvais, qui veulent aussi s'en sortir. Et ceux-là ont besoin qu'on leur dise la vérité. Comme ça, ils se diront, mais oui, mais c'est vrai, je voulais m'en sortir. Finalement, la situation dans laquelle je suis ne me plaît plus, je ne suis plus à l'aise. Bien-aimé, la vérité est nécessaire, c'est la lumière, c'est clair. Si on ferme les yeux tout seul parce qu'on veut, on veut pas de cette vérité, c'est les ténèbres totales. Jésus dit, l'œil est la lampe de ton corps. Si ton œil est mort, tu es dans les ténèbres totalement parce que même s'il y a la lumière, tu ne vois rien. Donc si tu changes la parole de Dieu en toi, finalement tu es dans les ténèbres totales. Même si tu peux être dans la meilleure église, tu peux avoir le meilleur pasteur, mais si la parole de Dieu est changée en toi, c'est fini. Si tu ne crois pas que toute la Bible est inspirée de Dieu, c'est fini, tu es perdu. Il faut un arbitre fondamental, mais nous n'avons pas tout simplement un arbitre, nous avons la solution dans la parole de Dieu. La parole de Dieu a des promesses qui nous amènent à être forts, encouragés, fortifiés, tenir dans l'adversité de ce monde. Bien-aimé, en prêchant, bien-aimé, moi-même je suis humble. Je reconnais, je ne dis pas je suis humble par rapport à ce que je dis. Je reconnais qu'il y a c'est difficile ce monde. Je le reconnais. Mais si on est devenu chrétien, parce que la solution c'est Jésus-Christ. Même si ce monde est difficile, la solution c'est la parole de Dieu. La solution c'est Jésus. Jésus a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la colère. On ne peut pas prétexter que puisque l'autre s'est mal comporté, donc j'ai le droit de me fâcher. J'ai le droit de garder la colère ou la haine. On n'a pas le droit, ce n'est pas biblique. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère, bien-aimé. Donc ce n'est pas parce que l'autre est mauvais, l'autre se comporte mal, que ça m'autorise moi à m'énerver et à garder une colère, à garder une position méchante. Non, la Bible dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent. On ne peut pas changer ces lois-là. Nous connaissons des pays qui ont connu la guerre, ou même des serviteurs de Dieu adaptent la Bible pour autoriser la vengeance. Non, Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Effectivement, je sais qu'il y a des choses, lorsqu'on ne se venge pas, on sent que tout un peuple est comme vaincu. Mais bien aimé, personne ne gagne sur cette terre, parce que tout le monde va mourir de toute façon. Même si les Américains ont gagné la guerre contre l'Allemagne, un jour tous ces Américains-là qui ont gagné la guerre vont mourir. Ils ne sont pas morts pendant la guerre, mais ils mourront de toute façon. Donc un jour ou l'autre, tout passera. Cette terre passera. Il n'y a pas de vainqueur. Ne cherchons pas à être vainqueur en se disant, mais si je ne me venge pas, je suis humilié. Mais de toute façon, tout le monde est humilié parce que tout le monde mourra un jour. Il n'y a pas de vainqueur. Le seul vainqueur, c'est celui qui s'accroche à Jésus parce qu'il ira au ciel auprès du Père. La victoire, on l'obtient comme ça. Ce n'est pas en se vengeant, en se mettant en colère parce que l'autre s'est mis en colère, en se mettant dans la haine parce que l'autre nous a désobéi, nous a haï. Non, ce n'est pas cela. Restons dans les règles de la Bible. Aimons nos ennemis. C'est très important. Ton mari qui te met mal à l'aise, il faut l'aimer. C'est dans la prière que la solution viendra. C'est dans la prière, c'est en montrant soi-même l'exemple d'attachement à Jésus. Vous savez, il y a des gens aussi qui sont observateurs. Ils te regardent bien et disent, ah, dès que j'amène l'argent, je le calme ou je la calme. Ils te regardent bien et disent, bon, dès que je le fais sortir au McDo, bon, j'arrive à le calmer. Il y a des femmes qui regardent bien, bon, dès que je lui fais le poisson au gingembre, bon. Ça... Alors, donc quand quelqu'un sent que toi-même, tu parles de Dieu, mais quelque part, tu es attaché encore à des méthodes, à des choses humaines. Il s'accrochera à ça pour te manipuler, pour rester mauvais. Nous devons nous-mêmes prouver que notre Dieu est tout pour nous, de sorte que la personne ne trouve plus de faille où nous accrocher. Moi, je connais des gens, quand ils savent que tu... C'est des pasteurs manipulateurs. Quand ils savent que tu aimes la prédication, tu aimes prêcher, il connaît ta faiblesse, il saura te manipuler. Il voit un autre adjoint, lui, celui-là, il aime l'argent. Je connais sa faiblesse, je saurai se manipuler. Il voit un autre collaborateur, lui, c'est les sorties, les voyages. Je sais, donc dès que je vais voyager, je vais l'amener. Alors, il connaît la faiblesse de chacun. Il sait maintenant comment manipuler tout le monde. Donc, il peut mal se comporter. Mais le jour où il rencontre quelqu'un, Il dit, mais il n'y a pas de problème côté prédicateur. Il ne cherche pas à prêcher. Il ne cherche pas l'argent. Il ne cherche rien. Ah, ça devient... La réalité vient. Donc, si tu veux quelque part que ton mari, que ton fils, que ta fille, que ta femme se donne à 100%, prouve toi-même que tu es à 100%. Prouve-le. Prouve-le. Parce que tant que lui, il verra en toi, finalement, la ressemblance avec lui, il s'accrochera à ça pour pouvoir te fatiguer. Tant que ton fils... Moi, bien aimé, récemment, je suis tombé sur un vieux James Bond. Bon, j'ai un peu tremblé, j'ai regardé 15 minutes. Et quand mon fils est venu, j'ai dit, comme il y avait des scènes de combat, j'ai dit à mon fils, va là-bas. Et quand ma femme est entrée au salon, mon fils vient, il dit, mais papa, maman, il prêche la, papa, il prêche la parole. Là, il regarde les films de combat, ces films-là. Bien-aimé, j'ai dit, oulala, à son âge, il sait que quand on prêche la parole, il faut être exemplaire. Ouais. Donc, en fait, son objectif, c'était que lui aussi voulait voir. Mais, comme je l'ai privé, il dit, bon, je vais me venger là maintenant. Donc, quand sa mère est entrée au salon, mais maman, papa, lui, il prêche la parole et il regarde ce film-là. J'ai dit, bon, mais mets tes choses que tu voulais mettre. Je fouille, bien-aimé. C'est la réalité. Si tu veux entraîner les autres, tu dois prouver toi-même que tu es à 100%. Je ne dis pas que j'ai péché, mais j'ai voulu l'empêcher de regarder quelque chose que moi-même, j'ai regardé. Ah. Donc, c'est ça le problème. Donc, il y a des sacrifices dans ce monde. Si on veut entraîner les autres, il y a des sacrifices. C'est très, très important. Donc, de comprendre cela et que nous puissions vraiment nous accrocher à la parole et à la solution qui est Jésus. La solution, c'est Jésus. C'est pourquoi Hébreux 12 dit ceci, devant, à partir du verset 1er, le péché qui nous enveloppe facilement. C'est vrai, le péché est lourd et difficile. Il nous enveloppe, c'est l'apôtre Paul qui dit, ça nous enveloppe facilement. Nous reconnaissons sa puissance, mais nous reconnaissons que Dieu est plus fort. Jésus-Christ a vaincu le péché. L'apôtre Paul dit, devant ce péché qui nous environne facilement, au verset 2, il dit, fixons nos regards sur Jésus. Accrochons-nous à Jésus. Jésus a la réponse à tout. Et Jésus, c'est la parole aussi en même temps. Il a sa vie, sa prédication, son comportement, c'est la réponse à tout. Et aussi, faisons de Jésus notre objectif principal. Ne fais pas, comme je disais à un frère qui veut à tout prix que quand il rentre chez lui, que tout soit bien, quoi. Moi, j'ai dit, mes frères, tant que tu voudras ça, ben, le diable en profitera toujours pour te montrer quelque chose qui ne va pas dans ta maison, que ta femme a fait ainsi de suite pour que tu t'énerves. Objectif Jésus, c'est tout. Si tu fixes ton objectif, c'est Jésus. Ce n'est pas un tel plat, ce n'est pas une telle aisance, ce n'est pas une telle ambiance dans la maison. Si c'est Jésus ton objectif, tu seras toujours content. Dès que tu as d'autres objectifs, tu finis toujours par devenir mécontent et sortir de la Bible. Et Jésus est notre solution. Devant le poids du péché, le poids de la tentation, Jésus est la réponse. Et c'est la vérité, parce que lui-même, il a vaincu ces choses-là. Amen. Que Dieu nous bénisse, nous allons prier. Seigneur, merci.